Et c'est au tour d'Anne-Laure Chouin de vous présenter le journal. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Simplifier la vie des chefs d'entreprise et de façon générale l'administration française, c'est à nouveau le projet de Bercy qui présente ce matin un texte de loi dans ce sens.
Le festival des vieilles charrues est en danger, c'est ce que disent ses organisateurs, nous verrons pourquoi.
Et puis Amnesty International présente aujourd'hui son rapport annuel et pointe une mise en danger inquiétante du droit international. Après ce journal, Marguerite Caton, quelle question du jour ?
La grippe aviaire peut-elle contaminer les humains ?
Réponse à 7h15. 50 mesures et un projet de loi pour une réforme à zéro coût, ou presque. Ce matin, au Conseil des ministres, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va présenter son projet de simplification pour les entreprises. Hier, Gabriel Attal avait précisé dans le même esprit un projet de simplification administrative pour les particuliers. Là non plus, pas de dépenses publiques, mais du recours à l'intelligence artificielle, une débureaucratisation de nombreuses démarches administratives, ou encore la fin de certaines obligations pour les collectivités. Ce matin donc, c'est aux chefs d'entreprise que s'adressera Bruno Le Maire qui promet d'alléger leur, je cite, fardeau administratif et partant de redonner du souffle à l'économie française. Un projet que Bercy a maintes fois porté par le passé avec plus ou moins de succès. Cette fois, Camille Magnard, le texte s'inspire de 6 mois de concertation.
Dans le texte présenté ce matin, on devrait retrouver une vingtaine de mesures un peu fourre-tout pour, comme le dit le ministre, alléger la charge mentale qui pèse sur les patrons français. Passer, dit-il encore, d'une logique de défiance et de contrôle dans l'administration à une logique de confiance et de conseil. Parmi les quelques mesures emblématiques, il y a la disparition annoncée pour 2030 de tous les formulaires administratifs CERFA et il en existe 1200 différents. Rien que pour les entreprises. Il y a aussi la simplification annoncée des bulletins de salaire qui passerait d'une cinquantaine de lignes actuellement à une trentaine seulement pour, explique le ministre, faire mieux comprendre aux Français la différence entre leur salaire brut et leur net, le montant donc des cotisations sociales, les inciter, je cite Bruno Le Maire, à réfléchir mieux au modèle social français et à son financement. Le projet de loi simplification fait sauter encore d'autres garde-fous administratifs contre d'éventuels abus ou dérives dans la gestion des entreprises. Il prévoit par exemple la fin de l'obligation légale de déclarer les bénéficiaires effectifs des sociétés. Il faut en finir, dit Bruno Le Maire, avec l'idée que tous les chefs d'entreprise sont des tricheurs en puissance, tout en continuant à sanctionner ceux qui trichent vraiment.
Au menu également, la création d'un coffre-fort numérique pour éviter de transmettre plusieurs fois la même information à différentes administrations ou encore une plateforme unique des marchés publics pour tous les opérateurs de l'État. Enfin, et c'était une demande de longue date de la CPME, le test PME qui existe ailleurs en Europe et qui doit permettre de tester sur des petites entreprises l'impact des nouvelles réglementations. Pour la vie des salariés, cette fois, ce pourrait devenir une vraie innovation sociale, la mise en place du CETU, le compte épargne temps universel, sur lequel se sont mis d'accord hier une partie du patronat et une partie des syndicats. C'était une promesse du candidat Macron et une demande spécifique de la CFDT. Si le gouvernement reprend dans un projet de loi les termes de cet accord trouvé hier, alors les salariés pourront transporter en quelque sorte avec eux leurs jours de congé et leurs primes pour en disposer à diverses fins. Isabelle Mercier, négociatrice de la CFDT sur ce CETU, en explique le principe. Écoutez-la.
Alors le compte épargne temps universel, c'est effectivement pour tous les salariés. Ce sera géré par un organisme extérieur à l'entreprise, la Caisse des dépôts et de consignation. Et donc tous les salariés pourront ouvrir leur compte épargne temps universel. Et ce compte épargne temps universel sera rattaché aux salariés et non plus à l'entreprise et non plus au contrat de travail. Ce qui veut dire que quand il changera d'entreprise, il aura toujours son CETU, comme ça qu'on l'appelle. Il pourra l'abonder quand il aura envie, ça sera au volontariat, et il pourra l'utiliser selon un certain nombre de critères qu'on a validés lors de l'accord.
Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ce CETU ? Il peut y avoir des RTT, des congés, qu'est-ce qu'il peut mettre ?
Alors on peut y mettre juste la 5e semaine de congés payés, parce que le but des congés, c'est quand même d'être pris pour se reposer, quand même. Toute forme de prime, sauf celles qui sont relatives à des travaux pénibles. les congés conventionnels qui sont propres à la branche par exemple ou propres à l'entreprise, des RTT éventuellement et puis de l'intéressement ou de la participation.
Des propos recueillis par Wafia Kenich. Il est emblématique de ces festivals de musique associative devenus des passages obligés pour les têtes d'affiche en tournée. Le festival des Vieilles Charrues à Carré dans le Finistère alerte sur son avenir. Si rien n'évolue d'ici cet été, l'édition 2024 des Vieilles Charrues pourrait bien être la dernière. C'est le message lancé par les organisateurs dans un communiqué. Créé il y a plus de 30 ans, devenu à la fin des années 90 l'un des plus grands festivals de France, il s'estime aujourd'hui menacé par de récentes décisions de la mairie et de la communauté de communes. Les explications de Louis-Valentin Lopez.
Une perte de la moitié des terrains où sont installés les campings des festivaliers dès 2026, la préemption d'un bâtiment aussi que les Vieilles Charrues comptaient occuper, autant de décisions qui poussent le festival breton à alerter. Jérôme Tréorel, son directeur, appelle les élus du Centre Bretagne à réagir pour sauver, dit-il, la manifestation.
Parce que sans ces différentes parcelles nécessaires à la bonne organisation, à l'accueil des publics et des artistes, on sera contraint d'arrêter la manifestation.
Arrêter ou en tout cas faire un festival au rabais ?
Un festival au rabais n'est pas envisageable. Si demain le festival devait revoir sa capacité, sa jauge, on aurait pu les moyens d'acheter les têtes d'affiche. Pour le coup, on serait aligné sur d'autres événements. Il y en a énormément en Bretagne et les gens ne viendraient plus jusqu'à Carré pour vivre un festival qui deviendrait, j'ai envie de dire, comme les autres.
Le festival déplore aussi l'instauration d'une nouvelle taxe annuelle par la ville de Carré, 367 000 euros, mais la municipalité défend ses décisions. Christian Troadec, le maire de la commune.
Des polémiques sans fin, toujours avec des récriminations. C'est un autre état d'esprit que ce qu'on a créé, nous, il y a un peu plus de 30 ans. On est dans un sentiment de gigantisme et de toute puissance à l'égard des partenaires. Parce que nous, on préfère les manifestations à taille humaine où l'homme et la femme ont toute leur place et on les respecte en tant que bénévoles, en tant que festivaliers. On arrive, je crois, au moment où le festival est un vrai tournant. Et il est vrai qu'il faut qu'il prenne un autre tournant, qu'il revienne à d'autres valeurs.
L'édition 2024, en tout cas, s'annonce sous les meilleurs auspices, nous dit l'organisation, avec notamment Grand Corps Malade, Sting ou encore Olivia Ruiz.
On parle à présent de la campagne des élections européennes en France, avec ce soir Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti Socialiste et de Place Publique, qui annonce un grand discours sur l'Europe lors d'un meeting à Strasbourg, juste avant le discours d'Emmanuel Macron à la Sorbonne sur le même sujet. Jeudi, on y reviendra dans le journal de 8h. Et puis, au Rassemblement National, la dédiabolisation des idées à ses limites, illustrée par la présence sur la liste européenne du parti d'un élu de Mayotte aux propos plus que controversés. Ses présences pointées du doigt par le gouvernement. Saïd Ali Boaïna Amissi, le représentant maoré donc du parti d'extrême droite à Mayotte, est critiqué pour avoir tenu à plusieurs reprises des propos complotistes, sexistes et racistes sur ses réseaux sociaux, notamment Facebook. Les explications d'Antoine Marette.
Samedi dernier, Marine Le Pen est l'invitée du journal d'Outre-mer Première à l'occasion de son déplacement à Mayotte. Et la chef de file du RN à l'Assemblée nationale, tout sourire, fait une annonce à propos de la liste de son parti aux européennes.
Amaoré fait son entrée sur cette liste. Saïd Ali Boaïna Amissi va rentrer sur la liste aux européennes. C'est la première fois, c'est historique. Et je m'en réjouis parce que c'est aussi une manière pour Jordan Bardella de dire à Mayotte, eh bien, vous êtes dans notre cœur, on vous voit, on vous soutient et vous allez mener cette aventure européenne avec nous.
La présence de Saïd Ali Boaïna Amissi à une position probablement non éligible sur la liste du RN est avant tout symbolique. À Mayotte, Marine Le Pen a réalisé de très bons scores lors de la dernière présidentielle et elle espère ainsi mobiliser ce potentiel vivier électoral lors des européennes. Mais deux jours plus tard, Libération exhume des propos de Saïd Ali Boaïna Amissi tenus sur Facebook. Propos misogynes, anti-vaccins, pro-Poutine et racistes contre les Comoriens. Le lendemain matin, sur LCI, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, fait part de son indignation.
Est-ce qu'on a regardé le profil de ce candidat? Est-ce qu'on a regardé les valeurs portées par ce candidat qui a participé à des théories de complot, qui a des propos extrêmement graves et dangereux à l'endroit des femmes, sur la soumission supposée des femmes par rapport à leur conjoint? Voilà ce qu'il en est.
Pour le moment, le Rassemblement national refuse de s'exprimer sur ce sujet. Un silence qui ressemble à de l'embarras.
Antoine Marette.
7h09 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Amnesty International, l'ONG des droits humains, publie aujourd'hui son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde.
Et sans surprise, elle ne s'améliore pas en 2023, même elle s'aggrave. Et ce, depuis plusieurs années, c'est ce qui inquiète le plus les auteurs du rapport. Une aggravation liée à la multiplication des crises, conflits, discriminations ou encore répression des droits fondamentaux. Mais en toile de fond, et c'est particulièrement alarmant, Amnesty International met en garde contre un quasi-effondrement du droit international. Gwendal Lavina.
L'ONG évoque même un tournant qui plonge un peu plus la planète dans l'incertitude, avec comme première victime les civils. Les bases sur lesquelles reposait le monde et les relations internationales s'effacent au profit du plus fort. Un mot résume ce constat pour Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty International France.
Il est accablant par rapport au quasi-effondrement du système multilatéral qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale, justement pour faire respecter ces droits humains. Et on se rend compte aujourd'hui que les États se moquent éperdument de ces droits fondamentaux, notamment dans les cas de conflit.
Pour Amnesty, les États et les institutions internationales trahissent leurs principes fondateurs et le deux poids deux mesures exaspère encore plus l'ONG.
Les pays occidentaux ont réagi très très vite et très puissamment suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en se basant sur le droit international justement, mais on n'a pas eu les mêmes réactions, on n'a pas eu ce même réflexe de se baser sur le droit international pour condamner ce qui se passe à Gaza, ou pour condamner ce qui se passe au Myanmar, ou pour condamner ce qui se passe au Soudan.
Il faut donc changer les règles pour Jean-Claude Samouillet, notamment à l'ONU.
Le droit international, c'est un jeu de force. Ceux qui sont chargés de la paix dans le monde, ceux qui sont chargés du respect des droits fondamentaux ne font pas le job, et au contraire se servent de leur droit de veto finalement pour couvrir les exactions dans leur zone d'influence.
Si seuls les États peuvent redonner du sens au droit international, ce constat ne doit pas être prétexte à l'inaction. Dans son rapport, Amnesty salue d'ailleurs une mobilisation sans précédent pour la défense des droits humains sur la planète l'année dernière.
En attendant, le nombre de morts civiles augmente au Proche-Orient, principalement du fait de la guerre à Gaza. Hier, le dernier bilan faisait état de plus de 34 000 morts dans l'enclave, des femmes et des enfants en majorité. Et la situation s'aggrave aussi hors de Gaza, en Cisjordanie, où plus de 120 000 Palestiniens ont perdu leur emploi depuis les attaques du 7 octobre. La faute à l'annulation de leur permis de travail et à l'interdiction d'entrer sur le sol israélien. Beaucoup sont toujours au chômage aujourd'hui, privés donc de toute source de revenus. Comme en témoigne ce reportage de notre envoyé spécial en Cisjordanie, Omar Waman avec Eric Audra.
Avant le 7 octobre, Ali faisait chaque jour la navette entre sa ville de Silwad en Cisjordanie et les chantiers de construction à Tel Aviv. Mais après les attaques du Hamas, le permis de travail de ce père de deux enfants a été annulé.
J'étais sous le choc. Nous, les ouvriers, on n'a rien à voir avec cette guerre. On n'a rien à voir avec le Hamas. C'est une punition collective. Maintenant, je passe mon temps chez moi. Je n'ai plus de travail, pas de revenus. Ma vie s'est arrêtée. Pour nous remplacer, Israël recrute des ouvriers chinois, indiens ou thaïlandais. C'est une calamité.
Ali a dû vendre sa voiture pour joindre les deux bouts. Quant à Mustapha, cuisinier en Israël, avant le 7 octobre, il a emprunté à sa famille et trouvé récemment du travail dans un petit snack.
Je viens de trouver ce petit boulot qui me permet de gagner 15 euros par jour environ, alors qu'en Israël, je pouvais gagner jusqu'à 100 euros par jour. 15 euros, c'est pas assez. Je peux rien faire avec si peu. Le sac de pain coûte 2 euros. Le paquet de cigarettes, près de 7 euros. Tout est cher. J'ai 3 enfants à nourrir. Et chaque mois, je m'endette un peu plus. Ce n'est pas juste. Ce qu'on veut, c'est vivre dignement.
Si Israël accélère le recrutement de travailleurs étrangers pour remplacer les Palestiniens, l'État hébreu envisage également de laisser revenir certains d'entre eux, mais sous haute surveillance.
Et malgré ce recul des droits des Palestiniens de Cisjordanie, le Sénat américain a voté hier une aide de 13 milliards de dollars à Israël. L'État hébreu s'en est félicité. Et puis, issue du même paquet de lois, celle qui demande au géant TikTok de couper ses liens avec sa maison mère chinoise, ByteDance, et plus largement avec la Chine, s'il ne veut pas risquer d'être interdit aux États-Unis. Les législateurs américains accusent le très populaire réseau social d'être utilisé comme instrument d'espionnage par la Chine. On termine par un mot du temps de ce jour en France. Froid toujours et gris souvent, des averses plus fréquentes dans l'est et le nord. Du soleil dans le sud-est, comptez ce matin de 2 à 6 degrés dans l'intérieur des terres, 5 à 9 sur les côtes, 9 à 14 degrés cet après-midi en général. C'est la fin de ce journal et la suite des matins de culture avec vous, Guillaume Erner.
Merci Anne Orchouin. Dans quelques secondes, la question du jour par Marguerite Caton. H5N1, la grippe aviaire peut-elle contaminer les humains ?